R22 tout monde, antenne des lendemains hybrides.
Bonsoir à tous, donc je me présente, Laurent Bonnotte, je suis à la fois psychomotricien dans un institut d'éducation motrice et en même temps, à mes heures perdues, je réalise des films. Alors avant de vous parler un petit peu plus longuement de tout ça, l'idée un petit peu de la soirée, c'est qu'avec nos deux invités, Guillaume Marchand et Pierre Foulon, on va discuter bien sûr, mais l'idée c'est que si vous aussi vous avez envie de discuter, vous avez des questions à poser par rapport à l'e-santé, il ne faut pas hésiter, voilà. L'idée, c'est que ça doit être quand même assez, on va dire, interactif entre vous et nous. Alors, des lendemains hybrides sont des séries de web documentaires sous forme animée que j'ai lancées depuis maintenant un an. Donc maintenant, on en a déjà diffusé 5 sur santé digitale et qui cherchent en fait à parler, on va dire, de la santé à travers les TIC, à travers les technologies de l'information et de la communication, pour aussi aborder la question de notre manière d'être au monde avec les objets numériques. L'idée, c'est que, tout d'abord, dans mon rapport au numérique, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir parler, à aborder la question du numérique dans la santé ? Il y a cette question... comment j'utilise la technologie dans mon métier de psychomotricien, comment j'utilise le numérique dans ma démarche artistique plutôt en tant que réalisateur ou artiste transmédia. C'est pas simple et en même temps je m'aperçois que la technologie est toujours présente. Finalement, je vais pour dire un petit peu comme ça là au départ, ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu comme une respiration qui se passe entre le numérique et moi, à travers mon travail, à la fois des moments de rejet, et puis des moments d'attirance, comme ça, et puis c'est une espèce de va-et-vient, mais continuel. C'est pas que du rejet ou que de l'attirance, c'est pas de la pro-technologie ou de l'anti-technologie, il n'y a pas quelque chose comme ça, il y a des sortes de nuances comme ça que je note au fur et à mesure que je travaille et qui m'interroge en fait. Voilà un petit peu la base qui m'a fait partir sur des lendemains hybrides. Alors après, j'ai tout simplement voulu enquêter auprès de personnes, chercheurs, praticiens, concepteurs, informaticiens et autres. Et bien sûr, des utilisateurs, donc ça peut être les patients aussi, des nouveaux objets numériques, des nouvelles applications numériques qui se mettent en place. Si on veut définir l'e-santé, alors il y a une définition comme ça qui serait de dire que le domaine de la santé, c'est le domaine de la santé qui fait intervenir les technologies de l'information et de la communication. Okay. C'est la santé au sens assez large. Ça comprend aussi la diffusion des informations entre les usagers, les professionnels, que ce soit les médecins, les thérapeutes, mais aussi les institutions et les entreprises. Et cette démarche, c'est vrai, elle est assez différente de ce qui se passe dans, on va dire, le fonctionnement plus classique de la santé. Donc c'est ça aussi qu'on va essayer d'un petit peu de cerner ce soir. Pour ce faire, donc, et je les remercie déjà beaucoup, au même titre que je remercie déjà Karine de m'avoir proposé de participer à cette soirée, d'avoir organisé cette soirée. Et merci à Pierre et à Guillaume, qui sont, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, vraiment des acteurs importants de l'e-santé, à mon sens. Voilà. Après, on en discute aussi. Guillaume, alors je fais une présentation rapide, mais après, ça va être eux hein, qui vont se présenter. Guillaume Marchand, psychiatre, et surtout spécialisé dans la santé mobile et connectée, directeur de DMD Santé. Président de DMD Santé, organisateur de beaucoup de choses, dont les trophées de la santé mobile aussi, entre autres, mais qui était ce week-end, pas plus tard que ce week-end, à la Villette. Voilà, donc c'est encore tout frais pourra peut-être en parler aussi. Et puis Pierre Foulon, directeur du pôle Brain Innovation à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, donc directeur qui fait partie du groupe Genius. Voilà, je résume comme ça, mais Pierre va en dire un peu plus longuement. Alors, donc, quand il a été question comme ça de parler et puis de montrer, parce que moi, on m'a fait venir pour que je montre quelque chose sur la e-santé, c'était pas si simple. Il y avait déjà quelque chose que j'avais fait par rapport aux travaux faits au sein du groupe de Pierre, une vidéo qu'on va regarder tout à l'heure. Mais la e-santé, pour moi, ça revêt beaucoup d'autres aspects. Et en même temps, de manière un peu tentaculaire, comme ça, qui fait que j'avais du mal à me donner, à avoir une idée fixe sur ce que ça pouvait être. Alors, j'ai pensé à plusieurs choses, pour moi, qui représentaient la e-santé. Je les présente comme ça, alors en vidéo. Alors, c'est pas pratique en tenant en même temps le micro. Il n'y a pas de son sur celle-ci. Vous reconnaissez très vite le dessin, d'accord ? Voilà. L'homme du Vitruve de Léonard de Vinci, autrement dit, une vision qui date à peu près du 15e et 16e siècle, des proportions idéales du corps humain. C'est en étudiant les théories de l'architecte romain Vitruve que de Vinci semble vouloir symboliser la synthèse des sciences de l'époque. Sciences de l'époque, qui sont plutôt les arts, l'architecture notamment, l'anatomie, la géométrie, mais aussi la cosmologie, la philosophie et la métaphysique, entre autres. Ce très célèbre dessin symbolise donc aux yeux de son créateur et vraisemblablement au nôtre, un certain humanisme, celui certes de la Renaissance, mais aussi la vision rationaliste de l'homme au centre de toute la mesure et de la représentation du monde. Mesure et représentation. C'est ce dont il est pleinement question avec le numérique, et notamment la e-santé. On quantifie, on déborde d'énergie, du moins on consomme de plus en plus d'énergie, pour que le corps humain puisse être révélé par les métadonnées, toujours de plus en plus nombreuses, et de plus en plus impressionnantes. Et bien sûr, ces big data, il faut pouvoir en tirer des visions, des représentations de nous-mêmes. Essayer de distinguer ce qui est commun, normal, pathologique, psychique ou physique, etc. Mais voici qu'on est prêt à retomber dans le piège des dichotomies. À moins peut-être que les nouveaux savoirs véhiculent à haute fréquence quelque chose qui peut nous aider à rompre avec certaines de ces dichotomies. En partie du moins avec le dualisme qui s'est immiscé dans les idéaux humanistes et rationalistes. L'homme de Vitruve fait probablement partie de cet ensemble de représentations qui inspire les nouveaux sorciers de la high-tech, tels les transhumanistes. Là encore, il ne s'agit pas pour moi d'être pro ou anti. Par contre, de bien voir là qu'il y a diffusion, et spéculation d'idées, de rêves et de projets qui ne sont pas si modernes que ça. Puisque finalement, à l'époque, après De Vinci, ces idées déjà étaient arrivées dans le milieu, dans le nouveau milieu scientifique. Le transhumanisme a au moins le mérite bel et bien concret de questionner, comme jamais cela ne s'était fait auparavant, sur la question du devenir de l'humain. Je reprends à mon compte aussi les termes de la mathématicienne Cathy O'Neill. Par rapport à ma manière de me positionner sur la e-santé, sur les data sciences, en fait. Sceptique, mais pas cynique. Sceptique, il faudrait plutôt l'entendre plutôt comme nuancé. Essayer d'être nuancé toujours par rapport à ces approches-là. Et donc pas au sens des climato-sceptiques qui, eux, sont plutôt cyniques. Voilà. Les maths sont essentielles dans la compréhension des choses. Les algorithmes, donc, nous aident à la compréhension des choses. Mais ils créent des modèles selon nos convenances. On dit que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais le choix de ce qu'on chiffre, la manière dont on chiffre et l'interprétation de ce qu'on chiffre nous amène à rester vigilants sur le sens et la représentation des mesures faites. À mon sens, DMD Santé fait partie, dans le domaine médical, des garde-fous de ce genre de tentation, qui fait que certaines applications vont prétendre apporter directement un remède sans même expertise au préalable. On en discutera. Voilà. Alors, une idée est beaucoup véhiculée, celle que bientôt nous pourrons numériser tout le vivant, le comprendre dans sa totalité, et que nous pourrons tout remodéliser à notre guise. Mais même si on peut constater des avancées significatives, rien n'est joué. D'ailleurs, mon enquête me fait rencontrer des chercheurs, des concepteurs, journalistes et praticiens bien plus nuancés qui évitent de prendre des vessies pour des lanternes. Deux exemples pour justifier un peu ce scepticisme face aux effets annoncés. Dans le cas du Human Genome Project, qui a été initié dans les années 90, celui-ci a apporté plein de connaissances, mais aussi entretenu, voire même alimenté, l'idée qu'un être vivant pouvait être réduit à son code génétique. Idée totalement fausse. Et bien des scientifiques qui travaillaient ou travaillent toujours sur ce projet pensaient et vérifiaient bien que l'information génétique ne pouvait être isolée de son environnement. Il en va un peu de même pour l'autre grand projet très actuel, le Human Brain Project, où résonnent trop souvent des discours très déterministes sur ce que cette colossale convergence de moyens et de savoirs, et donc d'immenses quantités de données à traiter, devrait produire. Selon certains, il produirait la simulation du système nerveux humain et la possibilité offerte à partir de là de savoir réparer le cerveau malade. Il ne s'agit pas de minimiser ou de mépriser de telles ambitions, mais encore une fois de nuancer les discours. Par exemple, pourquoi parler de simuler le système nerveux humain alors que, comme le dit le neurophysiologiste Alain Berthoz, il n'y a pas un cerveau type, mais que chaque cerveau est unique en son genre, même s'il y a des processus de structuration communs à tous. Il faut bien comprendre là aussi qu'il y a un enjeu de santé à la fois économique et politique de taille. Alors peut-être que ces effets d'annonce sont à la fois là pour donner envie d'eux et nous faire avancer, mais permettent-ils aussi d'aller chercher des moyens financiers là où ils se trouvent? Plus nous serons nombreux à y croire, plus les investisseurs seront présents. Pourquoi pas? Pour ma part, je pense qu'on peut faire rêver et agir les gens avec des visions moins stéréotypées et embourbées dans certains modes de pensée. C'est peut-être cela qui motive ma démarche à la lisière des arts et des sciences. Je continue avec cette question propre à la e-santé de l'environnement pervasif. Est-ce que vous savez ce que veut dire le terme pervasif ? Non. Le terme pervasif est autrement dit lorsque les objets communiquent ensemble, se reconnaissent ensemble et se localisent entre eux. En fait, les objets connectés, on va dire, pour résumer. J'ai décidé du coup d'aborder ça, moi, par rapport à un certain aspect de la e-santé qui est, par exemple, assez loin de ce que propose DMD, puisque je me suis plutôt intéressé, moi, à toute la quantification des gestes et des mouvements. Qu'on retrouve notamment dans la e-santé, qui s'appelle e-santé, mais qui relève plutôt du fitness et du quantified self, voilà, qui est assez différent de démarches plus médicalisées. Hein. Il faudra peut-être qu'on soit assez clair là-dessus ce soir. Voilà. Alors j'ai proposé, j'ai initié une vidéo. En m'intéressant à cet aspect-là, avec cette idée que l'environnement pervasif donne pour l'instant de drôles de mesures et de représentations de nos mouvements et gestes les plus quotidiens. Je me suis inspiré de la chronophotographie de Muybridge ou de Marais ou encore de Gilbreth pour montrer des corps en mouvement selon des coupes immobiles. qui, enchaînés bout à bout, peuvent donner des coupes mobiles. Le numérique donne une vision moins mécaniste des mouvements. Mais c'est le propos de l'animation qui suit. On multiplie les moyens pour saisir le mouvement sans jamais vraiment le saisir. C'est un peu le paradoxe de Zénon. Le traitement des machines nous donne ce que j'ai appelé des mouvements golems. Et je vous invite à voir ceci. Et là, il y a du son.
Vous pouvez voir ce web documentaire animé. Il s'agit de l'épisode 6 des lendemains hybrides, diffusé notamment sur la plateforme de santé digitale ou sur Vimeo. Et il s'intitule Les mouvements golems.
Voilà ce que ça donne, en gros. Pour finir un petit peu avec cette vision que je donne, sur laquelle tout le monde pourra rebondir, hein, bien évidemment, hein, qui n'a rien d'objectif et de complète. Je vais parler de la démarche des Serious Games, notamment ceux de Brain Innovation. Et en fait, on va tout simplement présenter alors, quelque chose qui a déjà été diffusé, mais au moins ça va donner un petit peu le ton pour tant qu'à faire, après laisser la parole peut-être à Pierre, puis après, et après à Guillaume. Voilà, là c'est une totalement autre vision en fait de la e-santé, parce que c'est pas du tout avec des objets connectés, c'est autre chose, et que je me trompe
vous
pas.
Vous pouvez voir cet épisode 2 des lendemains hybrides, toujours sur la plateforme Santé Digitale, entre autres, ou sur Vimeo. Il s'agit de corps en mouvement sous les regards numériques.
Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Foulon. Je dirige le numérique, la santé et la R&D du groupe Genius. Et donc, quand je parle de R&D, notre R&D est à 100% sur la e-santé depuis 2011. Donc, le groupe Genius, hein, je le présente rapidement, c'est une entreprise de services numériques. On a à peu près 180, un chiffre d'affaires qui tourne toujours aux alentours entre 16 et 17 millions d'euros. Le siège est à Colombes, en région parisienne. La partie santé est regroupée au sein de la Pitié-Salpêtrière à l'Institut du cerveau. Je vais vous montrer sous quelle forme. Et puis, on a une agence à Rennes et à Montpellier. Mes activités, elles sont regroupées sous cette bannière-là. Tout le numérique, toute la santé, toute la recherche clinique. Et on a une spécificité, c'est que nous avons un laboratoire commun avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est basé au sein de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Donc l'ICM, ça regroupe maintenant quasiment 700 chercheurs en tout ce qu'on peut trouver autour du cerveau et de la moelle épinière. C'est quand même une je pense que c'est dans le top 5 mondial des neurosciences. Je dirais même dans le top 3, parce que c'est vraiment de très très haut niveau. Et au sein de l'ICM, il y a aussi un centre de recherche qui nous fait... nous, beaucoup avancé, et on est, figurez-vous, il est juste en dessous de nos bureaux. Donc on est très souvent là-bas, et vous allez voir comment on utilise. Ce laboratoire, il a comme feuille de route par le ministère de la Recherche, et son bras armé, hein, qui est l'Agence nationale de la recherche. Et donc c'est un LabCom, c'est un laboratoire commun qui regroupe un académique très pointu dans un domaine et un industriel qui, lui aussi, est très pointu dans le même domaine. Et ce que nous demande le ministère, c'est de créer un lien pérenne sur une thématique qui nous est donnée et une feuille de route que l'on doit suivre. Et nous avons gagné, nous, la thématique e-santé. Et donc, ce laboratoire, il regroupe tous les spécialistes de l'ICM sur les troubles que vous pouvez voir ici, hein, les troubles moteurs, les troubles de l'équilibre, les troubles émotionnels, tout ce qui est autour de la motivation, l'apprentissage de la mémoire, etc. Et nous, on amène tout ce qu'on sait faire en matière de technologie. Et donc, ce laboratoire regroupe toutes ces équipes avec une feuille de route qui tourne autour de l'innovation d'usage en santé pour les thérapeutes et les patients. Et on a un axe encore plus précis, ce qu'on appelle les thérapies numériques. Et quand on travaille sur les thérapies numériques, vous voyez, on va créer quelque chose ici, ce qui est un support. On utilise beaucoup le jeu et beaucoup le jeu vidéo, parce que ça nous permet de mettre un patient dans et de créer un outil qui va beaucoup plaire et qui va permettre de solliciter le patient à travers des actions de son thérapeute. Et le patient, donc, on va l'entraîner, on va l'éduquer, on va le rééduquer, on va le stimuler, on va le solliciter de plein de manières différentes sur quatre axes bien précis qui sont le physique, hein, le cognitif, on va travailler sur les comportements, on va travailler sur les émotions. Et finalement, de faire un jeu, ça nous permet de prendre le patient par la main, de lui demander d'évoluer dans un environnement ludique, mais nous, on va le créer de manière très précise et il va faire ce qu'on veut qu'il fasse. Et donc, il y a ce lien-là entre le patient et le thérapeute, sachant que le jeu est complètement paramétré par le professionnel de santé. Comme c'est un jeu, on joue tout seul ou on joue à plusieurs, vous voyez, ce qu'on appelle un jeu multijoueur. Et comme ce sont des outils qui sont en ligne, on peut prolonger ce qu'on fait ici, en institution ou en cabinet médical, on peut continuer à faire ça à la maison. Et là, on va toujours faire ça seul ou à plusieurs. Et là, ça va être l'entourage. Et nous, on est au carrefour, finalement, de tout ça avec les professionnels de santé, les réseaux et autres. Et je vais vous montrer un exemple très précis. Comment on a traité les troubles de la marche et de l'équilibre. Comment on va... en ayant un socle clinique, scientifique, éthique et technologique très fort, comment on arrive de manière non médicamenteuse à avoir des résultats qui sont assez spectaculaires, parce que je vais vous lancer un film qui montre comment on traite les troubles de la marche et de l'équilibre en faisant une étude clinique sur des patients qui ont la maladie de Parkinson. Et ce sont des patients au sein de l'étude qui sont au bout de la chaîne clinique que l'on peut faire, parce qu'ils ont tous une stimulation cérébrale profonde. Hein. Donc là, on les a opérés, on a mis dans la masse noire du cerveau, au fond du cerveau, des stimuli électriques. Donc finalement, on ne peut plus rien faire pour eux. On est au bout de la chaîne clinique. Et vous allez voir, nous, comment on arrive à trouver des solutions innovantes. Alors je vous montrerai 3 minutes d'un film, c'est le magazine Future Mag d'Arte qui est venu faire un reportage un jour chez nous et je vous montre ça.
Et si les jeux vidéo ne servaient pas qu'à s'amuser ? Souvent accusés de créer une addiction auprès de leurs jeunes utilisateurs, ils pourraient bien...
Donc voilà un exemple, vous voyez le patient comme il est, comme nous on le sollicite. Et puis... quand on fait une étude clinique, on a une plateforme d'analyse de marche qui est de très haut niveau, et on va vraiment mesurer de manière très très fine avec un tapis d'analyse de pression des pieds. Les patients ont des capteurs partout, on va mesurer avant, pendant, après, et on va mesurer les effets d'utilisation du jeu. Le jeu, voilà ce que fait travailler le jeu. Et quels sont les objectifs thérapeutiques que l'on détermine quand on a travaillé sur ce jeu. Donc vous voyez qu'on est à la fois sur le cognitif et sur le physique. Et tous ces éléments que vous voyez là, ce sont des objectifs à atteindre. C'est un gros travail pour nous, parce que le jeu, en fait, c'est ce qu'on voit à la fin, cette petite top. Mais nous, on est en gros travail de conception, parce qu'il faut que le jeu atteigne ses objectifs thérapeutiques qui sont bien précis. Et on travaille vraiment... ce qu'on voit à la fin, les environnements graphiques et autres, c'est vraiment pour nous au niveau de finition. Vous voyez ? Quand on travaille sur les troubles de la marche et de l'équilibre, on va faire une expérimentation clinique sur une population bien précise. En l'occurrence, là, vous l'avez vu, c'est les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Mais les troubles de la marche et de l'équilibre, vous voyez, ça concerne quand même beaucoup de monde, hein, sur ces maladies qui sont quand même assez importantes, avec des coûts de santé qui sont... aussi très, très important. Donc l'étude clinique, elle a donné ses premiers résultats. On réduit ce qu'on appelle le freezing. C'est le freezing, ce sont les pieds des patients qui sont collés au sol et les patients n'arrivent plus à avancer, et puis c'est ce qui génère une chute. Donc nous, en faisant passer les patients à utiliser ce jeu pendant au début 20 minutes, puis 30, puis 40, puis à la fin 1 heure, eh bien, on réduit le freezing de 47%. On peut dire grosso modo qu'on réduit les chutes de 47%, ce qui est énorme. Parce que les molécules ont des résultats aux alentours de 10-12%. Nous, on va beaucoup plus loin et on est non médicamenteux. On est en train d'analyser aussi tous les résultats que l'on a sur l'amélioration de la marche. Et les résultats sont aussi significatifs au sens que les pressions du pied sont meilleures, la distance de pas, voilà. Donc on commence en faisant quelque chose qui est très ludique, mais qui est conçu de manière très scientifique. On crée ce qu'on appelle un médicament numérique nouveau qui est en ligne. Et donc on est là sur un modèle de santé qui est complètement différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On est aussi sur, alors je change de thématique, je parle de la maladie d'Alzheimer et des pathologies assimilées. Alors là, on a un jeu, vous voyez, c'est une bataille navale on a fait une bataille navale de sous-marins. Je crois que j'ai un film aussi.
Aux commandes de son sous-marin, Jean Sanchez torpille ses ennemis. À 73 ans, ce retraité souffre de légers problèmes de mémoire. Des troubles épisodiques qui lui font parfois perdre la notion du temps. Pour entretenir ses capacités, Jean vient donc chaque semaine dans cet établissement niçois dédié à la mémoire.
Donc il faut couler 2 cargos, donc 2 bleus. Donc toujours pareil, quand vous faites les mouvements, pensez à bien lever les jambes à chaque fois.
Un des concepteurs du jeu encadre les exercices sur le X-Torp, un jeu de bataille navale à visée thérapeutique.
Là, il fait de l'activité physique et de l'activité, on dit cognitive, ou peut-être pour vulgariser, c'est pas exactement pareil, mais intellectuelle, pour stimuler de manière générale son corps, son cœur et son cerveau.
Voilà, alors ce jeu, vous savez, il a toute une histoire. C'est des travaux qu'on a démarré en... Tiens, je te laisse reprendre. Qui ont démarré en 2000... Tu peux remettre le PowerPoint ? En 2011, et qui a fait une étude clinique sur à peu près une trentaine de patients. Et puis, donc, c'est un jeu qui fait faire beaucoup d'activité physique, mais une activité physique, ce qu'on appelle modérée, à savoir qu'on augmente, grosso modo, la fréquence cardiaque de... des patients aux alentours de 55%. Alors c'est bien parce que ça fait beaucoup de flux et ça envoie des nutriments au cerveau. Mais c'est un jeu dans lequel on a mis énormément de stimuli cognitifs et c'est un jeu dans lequel on a mis tous les tests classiques de mesure d'évolution de ces maladies d'Alzheimer et pathologies assimilées. Et donc en jouant, le patient il fait de l'activité physique, de l'activité cognitive et puis plein de tests de mesure d'évolution. Et figurez-vous que l'étude clinique a donné des résultats qui sont très intéressants parce que on remet les patients en activité physique, ça, il n'y a aucun problème. On a mesuré une forte régression et d'amélioration des comportements. Par exemple, l'apathie. L'apathie, c'est l'absence de motivation, l'absence d'envie de faire des choses. Et ben, nous, on l'a réduit énormément. Et puis surtout, alors, ce qui a été très étonnant, c'est qu'on a vu qu'on a amélioré les cognitions et la mémoire. Et sur Alzheimer, je vous assure qu'il y a très peu de résultats dans le monde positifs d'amélioration de la mémoire. Vous voyez, le jeu fait travailler toutes ces activités-là, physiques, neuropsy, cognitives. À tel point que les résultats sont tellement bons qu'on a eu un financement pour lancer une étude clinique encore plus large et nationale, ce qu'on appelle en langage de santé une phase 3. C'est donc on va mesurer de manière randomisée sur une cohorte très 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 importante et on va vérifier justement de manière très fine et donc ensuite le même processus de validation clinique qu'un médicament. Et je suis assez confiant parce que cette bataille navale, alors c'est un univers graphique qui ressemble ce qu'on appelle en très très BD, hein, en ligne claire, hein, c'est un peu l'univers de Tintin et ça donne de très très bons résultats. Et on est peut-être, je me demande si on n'est pas peut-être une des rares équipes au monde à être à ce niveau-là de validation clinique, voyez.
Alors ce qui, du coup, je rebondis, ce qui est peut-être pas dit Pierre, mais moi qui a été assez flagrant quand notamment je les ai contactés et tout ça, c'est qu'aussi toute l'équipe et les projets se laissent vraiment le temps d'une maturation, ce que ne font pas beaucoup de concepteurs aussi. C'est-à-dire que souvent, on nous balance des produits, des applications, des nouvelles technologies, etc., mais qui n'ont pas été si bien évaluées, etc. En gros, le produit est balancé sans qu'on sache vraiment l'efficacité potentielle de ce produit. Parce que les concepteurs, en gros, il faut que ça tourne, etc. Et il y a tout un marketing derrière qui amène à mettre la charrue avant les bœufs. La démarche que vous avez, c'est vraiment aussi, c'est sur du long terme, mine de rien.
Ah non, on a choisi l'axe.
Le temps, les protocoles et tout ça, c'est long.
Quand même. Alors nous, on a choisi l'axe d'être dans la santé et pas d'être dans le bien-être.
Voilà.
C'est plus long, c'est plus laborieux, c'est plus compliqué, ouais. C'est plus difficile. Mais le résultat au niveau du marché est quand même complètement différent. Alors, et puis on est moins nombreux aussi. Donc
et peut-être moins nombreux, mais quand même. Il y a quand même aussi des concepteurs qui proposent comme ça des choses, mais on voit que ça n'a pas été suffisamment mûri, etc. Et c'est important. Or, dans le domaine du numérique, on a l'impression que tout doit se faire de manière un peu précipitée. Là, c'est bien que Pierre soit là pour montrer que c'est en contrepoint, en fait, pour dire que finalement, non, ça peut être pensé tranquillement, avec vraiment, il faut des moyens hein, quand même.
La oui, alors ça va jamais assez vite quand même.
Ça va jamais assez vite, oui. Il y a des questions d'argent. Mais du coup, vous prenez le temps et voilà, moi, je suis assez sensible à cet aspect-là parce que dans le domaine médical, on ne peut pas ne pas. Malgré les avancées numériques, on ne peut pas se permettre de proposer comme ça des produits sans prendre le temps de voir ce que ça peut donner.
C'est des produits de santé, donc ça suit tout un processus de validation qui est long, qui est phasé, c'est très compliqué, il y a du réglementaire, etc. On est en plein dedans. Mais bon, moi, je suis pas inquiet sur tout ça, ça me...
Voilà. Ça fait un peu la transition avec.
Alors, j'ai pas terminé. Juste quand même pour dire, non, mais c'est pour montrer les produits en cours. On a des jeux comme ça de rééducation qui sont sur une thématique AVC et notamment la rééducation du membre supérieur. Hein, vous voyez, sur la maladie d'Alzheimer, j'ai parlé. Sur la maladie de Parkinson, j'ai parlé. Sur l'ophtalmologie, on fait des jeux de rééducation sur la basse vision, sur la DMLA. On en a sur l'autisme. L'autisme ici, et on apprend aux enfants à mimer des émotions et à s'entraîner. On en a on a fait un jeu très rapide ici qui s'appelle Je rêve, suite aux attentats de Nice. Il y a 600 enfants qui sont en stress post-traumatique à Nice. Les hôpitaux sont complètement débordés, donc on a fait un outil qui mesure le niveau de stress post-traumatique. Ils sont en train justement de le tester, puis on en a comme ça appris sur les grands. Bon, voilà. On a un projet là, celui-là, il est très intéressant et très nouveau. C'est ce qu'on appelle, on utilise l'imagerie motrice. L'imagerie motrice, c'est les mouvements imaginaires. C'est quand on ne peut pas faire un mouvement, mais qu'on imagine le faire. Donc on va mesurer les effets qu'il peut y avoir. Hein, il y a toute l'action cérébrale qui est faite, il n'y a pas la finalité musculaire. Et on va faire deux études cliniques bien précises. Une sur des gens qui ont. Ce qu'on appelle la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique. Ce sont des gens qui ne doivent pas bouger parce que les mouvements sont délétères. Et puis on va faire une autre. Donc là, on est vraiment en neuro pur et on va mesurer sur une autre population. Ce sont des gens qui sortent de chirurgie de l'épaule, chirurgie post-traumatique. Ce sont des gens qui ne peuvent pas bouger. Donc on va faire des jeux qui vont être entraînés, donc on met un petit casque sur la tête, on imagine les mouvements, hein, donc je ne sais pas ce que ça va être encore comme scénario de jeu, et puis on va les mesurer. Si on a des résultats d'amélioration, c'est très intéressant parce que les personnes qui ne peuvent pas bouger, alors c'est tous les traumatisés, tétraplégie et autres, les gens qui doivent se faire opérer peuvent commencer leur éducation à la maison et poursuivre le lendemain, donc c'est quelque chose qui va un peu changer... un peu une innovation. Je continue, c'est tous ces jeux, ils sont à disposition sur une plateforme. À partir du moment où ils ont terminé leur phase de validation clinique sur une plateforme qui s'appelle curapi.com, qui est accessible à la fois du domicile ou de l'institution. Et cette plateforme, on l'a lancée il y a fin 2015. On l'a mise en accès libre pour tous les professionnels de santé. Ils sont aujourd'hui 3078 à s'approprier curapi.com. Et à chaque fois qu'on sort d'une phase de validation, le jeu atterrit sur Curapi. On est en train de terminer une phase de test et de bêta-test qui a duré quand même un an. C'est toujours très long parce qu'effectivement, c'est un domaine qui est très particulier, la santé. C'est pas un domaine commercial comme un autre, donc c'est toujours beaucoup plus long. Et on va bientôt lancer Curapi.com en mode commercial. avec un modèle économique qui sera très disruptif, mais moi, je ne veux pas encore en parler là. Et ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est... il ne faut pas oublier qu'on est en ligne, qu'on a des applications cliniques qui ont démontré leur preuve médicale d'efficacité, comme n'importe quel autre médicament qui a suivi un processus. Et donc, notre vocation, ça sera de déployer tout cela à l'échelle de la planète. Alors, je dis à l'échelle de la planète, ce n'est pas qu'on a des rêves démesurés. On est en ligne, donc on n'a pas de frontières. On a des frontières de langue, mais on traduit. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, voilà ce que l'on fait à travers les jeux vidéo. Et on fait ça quand même très vite. On a démarré en 2011, on est en 2017. C'est en 6 ans. Bon, c'est toujours un gros boulot. Voilà. Le réglementaire est très long. Donc les jeux sont en train de devenir dispositifs médicaux de manière classique. Et on va pouvoir commercialiser très rapidement. Voilà. Non. Très peu, c'est le temps qui me reste pour terminer mon allocution. Voilà. Bon, je vous remercie à tous. Si vous avez des questions.
On continue peut-être avec la présentation sauf si effectivement vous voulez rebondir un petit peu. On a déjà dit et montré beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un veut un petit peu rebondir ou pas du tout? On continue.
Pourquoi est-ce qu'on dit que cette méthode est en bout de chaîne? Vous dites ça après tous les traitements.
Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que nos études cliniques sur Parkinson, on va cibler des patients qui sont en bout de processus thérapeutique. C'est-à-dire qu'une fois que sur les patients parkinsoniens, on leur a fait une stimulation cérébrale profonde, donc il y a toujours un traitement médicamenteux associé, mais il n'y a plus d'autres solutions derrière. C'est ça, ils sont au bout de leur processus. La médecine, il n'y a pas d'autres médicaments, il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a plus de porte à ouvrir pour essayer de leur proposer quelque chose. C'est pour ça qu'on a pris cette population qui est la plus avancée, la plus compliquée possible pour aller mesurer les effets du jeu. J'ai répondu à votre question ?
Mais on est bien d'accord que ce serait intéressant de le faire sur les autres aussi.
Ah, mais absolument. Alors, qui peut le plus, peut le moins dans ce cas-là. Évidemment. Évidemment. Oui, oui.
Est-ce qu'il y a des applications pour le burn-out ?
Je pense que je ne vais pas tarder à en faire une. On n'a pas encore abordé. On est vraiment plus dans une démarche. En fait, vous savez ce que je fais ? Moi, je regarde les coûts de santé et je les descends. Donc à un moment, on va bien y arriver. Et en trouvant des solutions comme ça, c'est pour ça qu'on est sur Alzheimer, Parkinson, AVC, les problèmes de vision. Donc on descend les coûts. On est en train en plus, on fait à la fois des études cliniques, mais on commence à faire des études médico-économiques. Donc on va mesurer l'impact médico-économique de ce type d'innovation sur le système de soins. Voilà. L'étape suivante, c'est l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire la prescription. Voilà. Ce qu'il y a ce qui est quand même extrêmement étonnant, c'est qu'on fait ça sans aucun lien avec l'industrie pharma. Rien du tout. Je trouvais ça bizarre. Moi, on est allé leur présenter ce genre de choses plein de fois. Je trouvais ça bizarre, puisqu'ils ont accès directement à la fois aux patients, aux professionnels de santé. Et finalement, je trouve que maintenant, ça nous donne une grande liberté, parce qu'on a une indépendance absolue. Et nos discussions vont plutôt Oui, parce que commencer à lancer un produit à l'échelle de la planète, c'est des choses qu'on ne peut pas faire nous tout seuls. Hein, donc on a des discussions avec plutôt des gens du numérique. Et on voit bien qu'il y a des problèmes de marché où il y a vraiment ces sociétés pharma sont figées sur leur modèle. Et on est très dérangeant. Moi, quand je fais des présentations, c'est toujours assez tendu finalement avec les gens de la pharma. Ah ben absolument, c'est ce qui nous fait réfléchir et à commencer à nouer quelques alliances, parce que on a commencé à nous prévenir quand on va publier les résultats sur la maladie de Parkinson, qui sont quand même très très forts. Hein, il y a un médecin à côté de moi, quand on une amélioration de 47%, c'est pas fréquent quand même. Hein, donc je donnerai la publication. J'ai oublié de dire que sur Alzheimer, nos résultats ont été publiés dans une revue scientifique qui s'appelle le Journal of Alzheimer's Disease, qui est un journal référence dans le monde scientifique. Donc on voit bien que les médecins, les scientifiques n'ont aucun problème à accepter ça. La mise sur le marché, on va la faire nous-mêmes, en fait. Moi, je pensais qu'on allait trouver des accords de distribution. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et on en trouvera des accords avec des gens du numérique. Ça sera beaucoup plus facile, en fait.
S'il y a d'autres questions, sinon on continue avec en présentant le DMD notamment.
Il n'y a pas d'objet connecté pour enlever les chats dans la gorge.
Les dents dans la gorge, ouais, désolé.
Alors on ne vous voit pas beaucoup et en plus on ne sait pas qui vous êtes. Alors, moi j'ai une mauvaise habitude, je demande souvent aux gens qui sont. Il y a des gens de la santé dans la salle ? Enfin, qui travaille dans la santé ? Ok. Et vous faites quoi dans la santé si ce n'est pas indiscret ? Et il y a des gens qui travaillent dans la e-santé. Bon, il y en a une, je sais, mais il y en a d'autres. Non. Les concepts de e-santé, ils vous sont familiers ou pas? Pas du tout, d'accord. Bah, du coup, je vais commencer par la fin. Alors, moi, j'ai pas de slide parce que je vais vous dire après ce que je fais. Et ce que je fais est beaucoup moins ludique que ce que fait Pierre. Et vous seriez tous endormis dans votre siège. Donc, je suis psychiatre et je suis un peu geek, j'ai toujours fait beaucoup d'associations, etc. Il fallait bien que je crée du coup une boîte un jour. Et j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la e-santé au sens large, et je vais la définir dans une minute, quand j'ai commencé à être médecin en prison. Parce qu'en fait, en prison, tout est beaucoup plus compliqué. Et toute la circulation d'informations, la circulation des personnes, etc. Et c'est bien la promesse finalement de cette e-santé, c'est d'être capable de faire transiter la bonne information sur le même patient entre deux médecins, de pouvoir eux-mêmes prendre rendez-vous chez un médecin, de pouvoir avoir des solutions de suivi, soit pour faire des essais cliniques comme tu peux faire, soit même sur du médicament, etc. Donc voilà. Donc je suis psychiatre, j'ai une boîte, et je vous en parle après, et je suis aussi en fait président cofondateur de Francie Health Tech. Francie Health Tech est une asso, loi 1901, à but non lucratif, qui fédère les start-up du numérique en santé. Donc des gens comme Pierre Mort, qui est une start-up avec 17 millions et plusieurs années derrière lui. Mais voilà, en 14 mois, on a fédéré 140 membres, donc on est la plus grosse fédération. Et ça me permet, je pense, aujourd'hui, de vous donner une forme de panorama de ce qu'est la e-santé. Alors, la e-santé, elle couvre un champ très, très large, et je pense que c'est le brouillard pour beaucoup de gens, nos politiques, les médias, les gens qui financent l'innovation, etc. Alors, dans la e-santé, vous allez déjà probablement trouver tout ce qui est... Je le fais de manière schématique, très schématique, mais c'est pour vous donner une vision un petit peu claire des silos. Vous allez trouver tout ce qui est lié probablement au parcours de soins. Donc pour vous, c'est surtout votre carte vitale. C'est ce qui va permettre aux radiologues de partager sur le même serveur vos IRM. Vous savez, maintenant, vous ne partez plus avec vos CD ou vos plaquettes, mais on vous donne une petite carte de visite avec un numéro, des choses comme ça. C'est le dossier médical partagé, qui est censé être le Dropbox, enfin le dossier unique dans lequel il y a toutes vos données de santé. Et si par exemple vous êtes complètement fou dans la rue et que vous vous retrouvez dans mon service et que vous savez même plus dire ce qui vous est arrivé, je pourrais récupérer des données sur vous, vos allergies, vos antécédents, etc. C'est un peu un échec, ça a coûté beaucoup d'argent, l'État a du mal à le mettre en place, mais voilà. Après, vous allez trouver peut-être plus tout ce qui est technologie de la communication, tout ce qu'on va pouvoir appeler télémédecine, donc la possibilité... moi, j'ai travaillé, par exemple, sur de la télégériatrie. J'étais au CHU de Rouen. Le long de la mer, il y a plein de maisons de retraite. C'est très beau. Le problème, c'est que quand il y a de la neige et qu'il faut faire les 17 en voiture avec un médecin, un infirmier, etc., vous ne voyez quasiment plus les gens. Parce qu'en fait, vous pouvez en faire que deux en une journée. Donc, vous imaginez, par 17, voilà, vous voyez les gens une fois en 4 mois. Et donc, avaient été mis en place des écrans dans des pièces qui nous permettaient de voir les patients qui allaient pas très bien, et avec l'aide des infirmières sur place, de pouvoir faire de l'adaptation thérapeutique. Donc voilà, ça permet aussi à des médecins entre eux de donner des conseils, même à l'autre bout de la terre par exemple, et puis voilà, de suivre des patients. Et puis vous avez la troisième partie, qui est celle dont je m'occupe, qui est un peu différente de ce que fait Pierre, qui est plutôt tout ce qui est grande consommation. Vous savez, les bracelets connectés, les balances connectées, les applications mobiles que vous pouvez télécharger dans les smartphones, et qui est plutôt la partie, on va dire, grand public. L'aspect plus consommateur d'ailleurs que patient, l'aspect plus prévention, information que soins. Et donc, on est un peu voilà, dans autre chose. Voilà en gros comment on pourrait définir tout le champ de la e-santé. Vous voyez que ça couvre des choses très très larges qui vont du bracelet connecté chez Darty à votre carte vitale au ministère de la Santé. C'est tout ça. Vous avez tous un smartphone ? Non ? Qui a dit non ? Dénoncez-vous. Ah, c'est ça ? Ah là là !
Ah ouais !
Ah là, écoutez, j'ai remis des trophées de la santé mobile ce week-end. Je vais vous remettre les trophées de la déconnexion ce soir. L'idée, très simplement, c'est ces applications, elles ne sont pas forcément difficiles à faire. D'accord ? Elles ne coûtent pas forcément très cher à faire. Elles se déposent sur les... Je vois des têtes qui hochent. Une application, ça parle à tout le monde ou pas ? Oui, d'accord, ok. Une application, c'est un petit logiciel que vous pouvez installer sur votre smartphone, qu'il soit en gros sous Android ou sous Apple. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire très facilement. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'en fin 2016, il y en ait 259 000 dans le monde. L'an dernier, il y en avait 160 000, l'année d'avant 90 000, et l'année d'avant 20 000. Et puis encore en 2010, il y en avait que 6 000. Donc on est sur un marché exponentiel qu'on peut expliquer par deux ou trois raisons. La première, c'est que les gens, je pense, ont envie d'être acteurs de leur santé maintenant. Et les générations plus technophiles de patients et de médecins ont envie de produire des outils. Par exemple, moi, j'étais tenté en psychiatrie de me faire une application avec toutes mes échelles. Vous savez, on a tous des échelles, des scores, des protocoles. Et finalement, c'est tentant, plutôt que d'aller chercher sur Google, de l'imprimer, etc. à chaque fois, de se dire, tiens, je pourrais avoir un petit iPad dans la poche. Et les avoir. Donc, il y a beaucoup de patients et beaucoup de médecins qui deviennent producteurs. Et puis, c'est surtout que, alors que Pierre, vous parlez du réglementaire, et j'en reviendrai dans deux minutes, qui est long, il doit vraiment montrer patte blanche, tu fais des dossiers extrêmement chers et extrêmement rigoureux pour être dispositif médical, donc pour avoir un statut de produit de santé. Apple et Google se moquent aujourd'hui du contenu que vous mettez. Donc, vous pouvez faire une application guérir du sida par la phytothérapie et être numéro 1 du store médecine en France demain matin. D'accord, suffit de faire peut-être un peu de pub et de pouvoir remonter. C'est un peu caricatural, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun filtre sur les contenus. Et donc voilà, moi, j'avais commencé avec quelques amis à m'intéresser à ça. Et pour revenir un petit peu plus sur les impacts sociologiques, la génération de mes parents a fait une grosse erreur, je pense. Quand elle a vu Doctissimo, elle a dit « il n'y aura pas de médecine sans médecin ». Et la réalité, c'est que Doctissimo, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 8, 9 millions de visiteurs uniques par mois. C'est le premier portail de santé en France. C'est donc quoi, un Français sur 8. C'est absolument énorme. Et donc, quand on était en 2011 à peu près, 2010, quand les premières balances connectées ont commencé à arriver, avec une promesse qui était celle de peut-être vous faire vivre un peu plus longtemps parce qu'on vous sensibiliserait à vos facteurs de risque cardiovasculaire, je doutais un petit peu de la promesse marketing. C'est bien de connaître son poids. Moi, j'en ai une chez moi. Je n'ai jamais maigri. Donc, ça ne suffit pas. Et ça manquait de preuves cliniques. D'accord ? Donc, on s'est dit qu'il fallait les évaluer, tous ces outils. Et c'est ce que fait DMD Santé. On évalue et on labellise les applications mobiles et les objets connectés dans la santé. Alors, les applications mobiles, elles servent à quoi ? On peut en distinguer trois thèmes. Le premier, c'est, on va dire, grand public patient. Alors, ce sont des outils pour suivre votre grossesse, par exemple. Enfin, je parlais avec une collègue qui en a une, et celle de Doctissimo, d'ailleurs, est excellente. Alors, l'idée, c'est pouvoir rassurer, c'est pouvoir donner de l'information. Vous allez dire, tiens, dans trois semaines, j'ai mon échographie du deuxième trimestre, et l'appli va pouvoir vous dire, voilà ce qu'on cherche à l'échographie du deuxième trimestre. Voilà ce qu'elle ne dit pas, donc ça ne sert à rien de penser que ça fait ça. Oui, tu as le droit de manger la veille de l'échographie, etc. Ça vous permet de vulgariser aussi tout le discours médical, et donc d'avoir de l'information, de stocker des clichés, de stocker des radios, et même de localiser une maternité si jamais vous êtes un peu loin de chez vous au moment où ça arrive. Donc ça, c'est, on va dire, pour les patients de grand public. Vous en avez sur l'éducation thérapeutique, sur l'asthme, sur le diabète. Votre fils, il a 14 ans, vient de lui diagnostiquer un asthme ou un diabète. Ça paraît assez évident de s'injecter de l'insuline quand on est diabétique depuis 20 ans. Quand on commence à dire à des adolescents, faut pas que tu fasses trop de sport, mais alors si tu en fais avant, faut que tu t'injectes moins d'insuline et que tu penses à bien manger, etc. On vous hospitalise quelques jours et puis après on vous, entre guillemets, lâche au collège ou au lycée avec vos kits d'injection. Ça peut être un peu stressant, on peut se demander si on fait le bon choix. Et donc il y a des applications aujourd'hui pour vous accompagner. dire voilà, si tu vas faire une heure de foot, eh ben, peut-être que tu ne mets pas 8 unités, tu en mets 4, etc. Donc un peu pour rassurer, je ne dirais pas que c'est un diabétologue dans la poche, parce que mes collègues vont réclamer ma tête, mais on n'en est peut-être pas loin. Vous avez des applications pour les professionnels, alors je ne vais pas m'étendre dessus, mais par exemple, moi j'ai des outils qui me permettent de m'alerter sur les nouvelles recommandations. Tel médicament a été retiré, telle prise en charge se fait comme ça, telle déclaration, je sais pas, d'hospitalisation sous contrainte maintenant se fait comme ça. Donc vous avez des outils pour la formation initiale à la faculté et la formation continue tout au long de sa vie. Vous en avez pour même faire sa compta et puis surtout vous en avez pour les médicaments, pour donc Vidal et autres. Et puis la troisième catégorie, c'est je trouve celle qui est la plus intéressante aujourd'hui, c'est celle qui est liée au suivi. Par exemple, j'ai une sclérose en plaques. Désolé, on parle de plein de maladies pas du tout sympas ce soir, mais c'est un peu notre quotidien en fait. Donc imaginons que j'ai une sclérose en plaques. Je vais voir mon neurologue tous les 3 mois. En 3 mois, on peut avoir ce qu'on appelle des biais de mémorisation. Finalement, est-ce que je dormais réellement bien en revenant de la dernière hospitalisation? Est-ce que j'ai des troubles ophtalmologiques, etc. Et donc là, je vais pouvoir les noter tout simplement avec des questionnaires très ergonomiques dans mon application et générer des rapports automatiques pour les professionnels de santé qui me prennent en charge. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'avoir de l'information objective, de manière non intrusive, plutôt ergonomique. C'est juste dans votre téléphone et c'est sécurisé. Et en même temps, qu'il soit très pertinente quand elle est exportée vers les professionnels de santé. Ça peut leur faire des courbes, des échelles, même des scores. Et ça permet d'adapter au mieux le traitement. Et ça permet une autre chose. Enfin, moi, je l'ai vu en consultation aussi. Ça permet, sur un temps de consultation, puisque la durée moyenne de la consultation de médecine générale en France, c'est 7 minutes 30, je crois, quelque chose comme ça. Ça permet finalement, en probablement 10 secondes, de donner au médecin une évaluation, on va dire, fiable, de l'adapter, ouais, objective, et donc de garder les 7 minutes qui restent pour parler d'autre chose. Voilà. Alors, la santé connectée va-t-elle remplacer les médecins ?
Oui, voilà, c'est la question forcément que j'allais poser.
Je
pourquoi elle ne remplace pas les médecins plutôt ?
Alors, aujourd'hui, la santé connectée en elle-même, c'est-à-dire application objet, ne vont pas remplacer le médecin et ne vont pas vous empêcher vraiment de tomber malade, soyons bien clairs. On est aujourd'hui dans la facilitation. On est dans un échange de données facilité, dans un recueil plus qualitatif, etc. Par contre, si on prend la e-santé au sens large et qu'on prend par exemple l'intelligence artificielle, vous allez probablement avoir un petit changement de paradigme. Et si les labos peuvent des fois s'inquiéter de ce que fait Pierre, les radiologues ou les dermatologues peuvent s'inquiéter de ce que font les géants comme Google. J'en parlais à la télé il y a 3 jours. Nature, donc, qui est l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde, a publié il y a 4 jours un article qui vient de Stanford. Et ils ont pris donc TensorFlow. TensorFlow, c'est le bras armé de Google pour la recherche. C'est une jolie machine à je ne sais pas combien de millions, si ce n'est 2 milliards. Ouais, une jolie machine à quoi 20 milliards. Et donc, ils ont pris 130 clichés de grains de beauté ou de mélanome. Donc cancer ou bénin. Ils ont recruté 21 dermatos expérimentés, donc, qui étaient reconnus dans leur domaine, qui étaient sollicités par des confrères quand ils hésitaient, etc. Et ils ont comparé les résultats des humains versus la machine, et finalement la machine est supérieure, elle va plus vite, et en plus elle donne des résultats meilleurs. Donc, j'ai plus les résultats en tête, mais les résultats sont assez significatifs. C'est une vraie question. Enfin, si j'étais en première année de médecine aujourd'hui, bon, déjà je referais de la psychiatrie. Et en plus, avant qu'un robot me remplace, j'ai un peu de temps.
Il y a du temps, quoi.
Mais je pense pas que je ferais radiologue. Parce que si votre métier consiste à regarder des images, et bah, probablement qu'un processeur se mettra jamais en grève, ça sera jamais dimanche.
Avec les nouveaux systèmes.
Ça sera moins cher. Voilà. Et donc voilà, je cherche pas du tout à vous faire peur. Hein. J'essaie de vous donner aujourd'hui une forme de panorama technologique. Parce qu'on est clairement dans une jungle. Il y a des gens qui font de l'IA, donc des choses très poussées. Et puis, je viens de vous parler d'objets qui sont un petit peu plus simples, comme, je ne sais pas, des outils de suivi de grossesse. Alors, les deux ne répondent pas au même.
Juste un mot par rapport à en termes de chiffres. Il est évalué à peu près 2013-2014, à peu près 19 milliards, en gros, d'objets connectés dans le monde. Ils estiment d'ici 2020, on va on sera dans une fourchette d'entre 30 et 50 milliards.
Mais ils prennent tout, par contre.
Alors, ils prennent, par contre, c'est vrai, c'est tout.
Ils
c'est
prennent pas le lavage connecté.
Ouais, 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 et bien évidemment, c'est vrai aussi sur ce qu'on appelle aussi la santé, enfin, le connecté. Il y a bien évidemment ce qui peut... Alors, il y a différents aspects. Il y a ce qui peut être ingéré, ce qui peut être transplanté, ce qui peut être porté. C'est ce que j'ai essayé de montrer un petit peu, hein, vite fait, dans les animations. Et puis, ce qui peut être fixe, notamment dans l'environnement. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'environnement pervasif, c'est-à-dire que finalement presque ce qu'on respire, ce qu'on mange. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur cette idée que j'ai essayé d'amorcer un petit peu au début, que finalement, qu'on soit pro ou pas technologique, ou qu'on soit de toute façon usager du numérique, de toute façon, on est dans un environnement qui est complètement imprégné de ça. Et il va falloir effectivement... faire avec et décortiquer.
C'est toute la question, avec. Je pense, au niveau social. Du coup, je ne vous ai toujours pas dit ce que je faisais, mais ouais. Je vous le dirai un moment. Non, mais c'est toute la question au niveau social. On a vu, c'est Generali qui a essayé il y a 2 mois, mais ils se sont fait retoquer par la CNIL en 24 heures, de proposer une forme d'assurance qui était « pay as you live », c'est-à-dire « payer pour votre risque », comme les voitures. Tu aimes les burgers, les pizzas, tu ne marches jamais et tu fumes. Ton voisin fait du footing, il sort son chien à 7h du matin, il mange bio et des haricots. Pourquoi est-ce qu'il ne paierait pas 3 fois moins cher? Puisque finalement, lui, il ne va probablement pas faire d'infarctus. En plus, sa mère n'avait pas de cancer du sein et son père pas de cancer du côlon. Donc si ça se trouve, il a un terrain génétique meilleur, etc. Encore une fois, je grossis le trait. Mais c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Alors, on ne parlera pas de génomique aujourd'hui parce qu'on est plutôt dans la e-santé, mais... J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est la vraie question qu'on ne pose pas au public. Quel modèle social veut-on ? Est-ce qu'on veut garder celui qu'on a actuellement, qui est une mutualisation du risque ? Si ça se trouve, je vais mourir à 45 ans et Pierre va vivre jusqu'à 110 ans. Et voilà, et bah, peut-être que j'aurai des...
On peut faire ça que le contraire.
Oui, on verra, on en reparle. Et rendez-vous dans
50 ans.
Oui, bah un peu moins pour moi du coup, mais voilà. L'idée c'est une mutualisation, du risque. Où est-ce qu'on veut pouvoir, est-ce qu'on veut payer simplement pour entre guillemets ses conditions de vie, mais pire son code génétique. Et là, on pourrait quasiment parler d'eugénisme. Parce que si vous avez des gènes porteurs de cancer, c'est pas de votre faute. Et est-ce que vous devriez avoir une mutuelle 2 fois plus chère pour ça ? Voilà. Plus concrètement et moins terrifiant, c'est ce que propose un peu Oscar aux États-Unis, qui est une mutuelle new-yorkaise qui défie la chronique et qui est valorisée. En un an, ils ont été valorisés à 4 milliards de dollars. Enfin bon, il n'y a qu'aux US qu'on peut voir ça. Et donc l'idée, c'est qu'ils vous proposent en option de porter des objets connectés. Par exemple, qui compte vos pas, hein, je pense que vous connaissez ces bracelets, et donc d'avoir plutôt des primes, des ristournes, des choses comme ça, si vous les portez.
C'est suite à l'Obamacare que ça a été mis en place, en fait, ce système. Finalement, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle, enfin une assurance, bah, on propose, alors là aussi, on peut en discuter d'un point de vue sociologique, etc., mais on propose finalement, d'accord, mais vous allez payer quand même, je le présente comme ça, mais...
Avec vos données.
Avec vos données. Voilà. En sachant, je vais aussi, juste pour montrer quand même que l'enjeu est de taille, hein, sur le plan des données, j'ai voulu juste illustrer, par exemple, c'est en 2014 ou 2013, la question des brevets sur les objets connectés et sur les applications. Les brevets dans le monde, et ça va être assez... Ça parle de soi. Après, on peut rebondir dessus, mais voilà, j'ai fait une sorte de carte très grossière. Hein, attention. Alors voilà, je vais la mettre en route. Donc ça, ce sont les pays. En gros, hein, on voit les pays qui ont proposé des brevets. D'accord. Maintenant, si on voit au niveau quantitatif par rapport à ce qui a été vraiment proposé en nombre de brevets, ça va donner ça. Alors, en gris, c'est les pays qui n'ont rien proposé. Hein. Ce sont ceux qui sont colorés qui ont proposé quelque chose. Voilà à quoi ressemble le monde sur les objets connectés. Voilà. Alors,
En gros, ce qu'on peut voir, c'est que, à part l'omnipotence des USA, le Canada a complètement disparu. C'est une toute petite tâche, puisqu'ils ont proposé à ce moment-là que 4 brevets, alors que les États-Unis sont à 1300, étaient à 1300 cette année-là. La Chine tient à peu près son épingle du jeu avec la Corée et le Japon. La France est. Mais depuis, ça a peut-être un petit peu changé.
Un petit peu.
Et voilà, les petites tâches, et voilà, c'est quelques pays comme ça. Alors, l'Afrique a bien sûr quasiment disparu avec l'Amérique du Sud. Voilà à peu près ce que ça donne. Pour dire. Et la Russie aussi. D'ailleurs, le plus grand pays du monde a quasiment disparu. Donc, pour dire quand même que ce sont des enjeux de taille, il y a des gens qui, même si ça ne marche pas, tout ne marche pas encore, mais que les brevets, eux, sont déjà bien déposés et qu'on spécule, bien sûr, sur le devenir de, notamment, la e-santé, etc. Voilà, je ne sais pas si vous voulez répondre là-dessus.
Enfin, je voulais continuer du coup, par rapport à ça. Mais non, mais je ne vais pas vous expliquer ce que je fais. C'est dans le. Finalement, ce marché, encore une fois, il est une vraie jungle. Je ne sais pas, il y a 10 000 objets connectés. Je vous disais 259 000 applications mobiles de santé dans le monde. Et la sensation que ce marché est un iceberg. C'est-à-dire, il y a ce qu'on vous montre, il y a ce que vous voyez, la promesse marketing de l'outil ou de l'application. Et puis, il y a tout ce que vous ne voyez pas. Qui a fait les contenus? Est-ce qu'ils sont fiables? Où sont stockées mes données? Et autres. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. En un mot, je veux dire qu'on est un genre de bureau Veritas pour la e-santé. Et le but, c'était de se dire, dans les 259 000, il y en a probablement 90% qui ne servent à rien, qui ne sont pas aboutis, qui ne sont pas appuyés par des données de la science, qui sont inutilisables d'un point de vue ergonomique. Mais moi, en tant que médecin, pour les médicaments, pour les molécules qui marchent, j'ai le Vidal. Est-ce qu'on ne peut pas créer un Vidal de la e-santé? D'accord. Donc quelque chose où, par exemple, vous pourriez retrouver... dans l'idée de demain, tout ce que fait Pierre, etc. Et se dire que si finalement ces outils, ils arrivent à des niveaux d'information extrêmement bons et qui diminuent le stress ou les incompréhensions en consultation, s'ils arrivent à des niveaux de rééducation qui sont similaires à ceux des médicaments, pourquoi pas leur donner une place dédiée? Donc voilà, on a créé une plateforme et je vous passerai tout son fonctionnement, mais l'idée c'est que 80% est gratuit, on travaille beaucoup sur de l'open source, on essaie de mettre de la transparence dans la régulation. Vous avez vu PIP, vous avez vu Mediator, vous avez vu Volkswagen, et on s'est dit que finalement, quand on était le juge, il fallait mieux avoir rien à se reprocher, et la meilleure façon de le prouver, au-delà de le dire, c'est de tout donner aux gens pour qu'ils puissent challenger vos méthodes. Et donc, on va analyser la pertinence médicale, qui fait les contenus, quelles sont les preuves scientifiques, quelle est l'indépendance des gens qui ont fait les contenus par rapport à la personne qui a payé pour l'outil. C'est surtout vrai pour l'industrie. On va aller regarder ce qui est juridique, CGU, mention légale, est-ce qu'il y a une assurance? On va aller regarder ce qui est réglementaire, est-ce que c'est un dispositif médical? Qui héberge les données et avec quel droit? On va aller regarder ce qui est éthique. Alors ça peut paraître bizarre, on n'a pas la prétention d'avoir coté de l'éthique, mais on va demander aux gens déjà qui ils sont pour informer les gens. Est-ce qu'il y a une légitimité du droit à l'information? Est-ce qu'ils ont pris en compte les possibilités de mésusage ou d'usage détourné des utilisateurs de leurs outils et de le faire remonter? Parce que finalement, on imagine que les gens l'utilisent comme ça, mais si ça se trouve, ils font comme ça. Et donc, est-ce qu'on prend ça en compte? Est-ce qu'on n'enferme pas les gens? Par exemple, si j'ai un glucomètre connecté, 2 ans, je veux changer de marque, est-ce que je peux récupérer sous un format classique, type Excel, tous mes antécédents de glycémie pour les réinjecter dans un autre appareil qui est peut-être celui du concurrent, pour ne pas être obligé de racheter tout le temps la même marque et tout? Et puis, on fait de la sécurité informatique, mais ça, on ne va pas trop en parler. Mais alors, surtout, on fait une chose qui, moi-même, tient beaucoup à cœur et qui était le point de lancement de notre société, c'est de la valeur d'usage. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir une bibliographie scientifique, d'avoir un serveur protégé pour les données de santé, mais qu'en pensent les gens à qui est destiné votre outil? Parce que c'est ça, toutes les voitures, elles ont 4 roues, un moteur, mais si je vous donne une vieille voiture toute rouillée ou une Porsche, un Range Rover, enfin je ne sais pas ce qui vous fait rêver, vous la prendrez peut-être. Et donc on va les donner, par exemple, à des asthmatiques et des pneumologues, des plateformes d'éducation thérapeutique avec de la Ventoline connectée. On va les donner à des gynécos, des sages-femmes et des jeunes mamans, des outils sur la grossesse. Et c'est eux, en l'utilisant en ligne, à travers des questionnaires, qui vont nous dire réellement s'ils l'achèteraient, s'ils le recommanderaient, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer, etc. Et on propose à l'utilisateur final d'être le point d'inflexion qualitative de ce marché, de décider lui ou non s'il y voit un intérêt au-delà de toute la promesse marketing. Donc enfin, voilà, j'ai essayé de faire la boucle.
C'est déjà pas mal. Hein.
Ouais, c'est une voilure qui tourne.
Est-ce que vous avez des questions ? On ne fera pas le tour forcément d'Élie Santé. C'était pas le but non plus ce soir. Hein. C'était d'amorcer quand même des questions sur certains points. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions ?
Une question qui est à côté, qui me pose, soudain la vie survit, c'est qu'on parle par ailleurs des ondes qu'il y a dans le téléphone, qui influeraient selon sur la santé. Est-ce que c'est une chose qui a été entendue ? Je ne sais pas si je suis
claire. Oui, la question est très claire. Alors, deux têtes comme ça, je crois que les données de la science n'ont pas encore tranché. C'est-à-dire que les scientifiques ne savent pas si c'est nocif ou non. Enfin, de tout ce que j'ai pu lire, je crois que la science en est là.
Et il y a peut-être la question aussi qu'il y a des. C'est ce que je disais aussi, on est, bon, d'accord, tous humains, mais on n'est pas non plus sensibles tous aux mêmes choses. On peut tout à fait imaginer, là aussi, hein, je suis prudent en disant ça, mais qu'il y a des personnes pour lesquelles ça, c'est pas bon. Mais que la majorité, finalement, ça passe. Voilà, c'est toujours ces questions-là, hein. Jusqu'à quelle dose aussi, il y a aussi ces questions-là. Tout ça, c'est en point de suspension et en point d'interrogation, hein, mais on peut imaginer.
Ouais. Alors, je ne sais pas si le Bluetooth de votre balance connectée qui s'allume deux secondes une fois par semaine est cancérigène. Je pense qu'il y a quand même des enjeux autour du Wi-Fi ou des ondes, des réseaux téléphoniques qui sont un peu plus importants. Ouais. Mais je crois que...
Oui, c'est vrai que après il y a des c'est comme pour le climat, mais là ça a l'air d'être plus compliqué encore. Autant pour le climat, bon, il y a vraiment que les sceptiques cyniques qui résistent encore. Mais là, effectivement, il y a des fois des guerres, on sent, hein, que autour de ça. Mais c'est vrai que ça. J'ai pas l'impression qu'il
y a des grosses études de cohorte en cours, mais c'est quoi, c'est chez le rat et les élèves avec des antennes au milieu, mais je crois qu'il y avait deux groupes et l'un a conclu que c'était dangereux et l'autre qui absolument pas, donc l'étude était non concluante et enfin, j'ai pas tout à d'autres données.
Non, moi je j'ai pas d'informations. C'est moi, je travaille beaucoup avec des médecins et en fait autant la mécanique peut être peut être assez précis, genre quand une voiture coule une bielle. Après, le problème, c'est que moi, je travaille avec des gens, sur le même cas, ils vont avoir des réponses différentes. Et ça, c'est les professionnels de santé n'ont pas tous la même approche sur le. Alors, je pense que c'est encore plus compliqué pour ce genre de thématique où vous allez trouver des gens qui vont vous dire c'est tout blanc et d'autres qui vont dire c'est tout noir.
Voilà.
Aujourd'hui, je ne la prends pas.
Moi non plus.
Très clairement.
C'est pas du tout mon champ d'intervention.
Et puis oui, je pense que c'est au-dessus de nous. Après, c'est au niveau étatique.
On saura, enfin moi, dans 50 ans, que les effets. Hein.
Tu viendras me voir au cimetière.
Ben, là, moi, j'ai un micro qui communique, donc peut-être je m'en prends depuis un moment. Là. Donc, on ne sait pas. C'est ça, il y a toujours beaucoup d'inconnus. Moi je ne suis pas médecin, hein. Je travaille avec des médecins et je suis toujours très étonné parce qu'il y a beaucoup d'inconnus.
C'est toujours la balance bénéfice-risque. Si vous avez, je prends un exemple très concret de e-santé sur quelque chose que j'ai un peu qualifié de gadget, qui est la balance connectée. Et c'est peut-être ça dont on n'a pas parlé, c'est que la technologie, c'est qu'un outil. C'est son contexte médical qui lui donne sa puissance, sa portée, son intérêt au final. Moi, j'ai une balance connectée. Elle me dit juste qu'il faut que j'arrête, faut que j'aille au sport. Voilà. Mais en Auvergne, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils ont pris des gens qui ont de l'insuffisance cardiaque grave, donc des gens qui peuvent faire des OAP. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est de l'OAP. C'est les poumons qui se remplissent d'eau rapidement. vous allez aux urgences, on vous met des diurétiques et de l'oxygène, et puis voilà. Le problème, c'est que souvent, quand vous avez une insuffisance cardiaque terminale, vous êtes un peu âgé, donc quand vous restez une semaine ou deux hospitalisé à l'hôpital, votre état de santé se dégrade très vite, et finalement, deux semaines avant, vous étiez à la maison, chez vous, et vous faisiez presque vos courses, et à la fin, vous finissez en maison de retraite, puisque vous êtes grabataire, ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Et donc, pour éviter ça, ils se sont dit, bah tiens, on va, parce que c'est quelque chose qui arrive très vite. Hein. On dit, tiens, papy, prends une huître, alors qu'il mange sans sel, c'est pas une huître qui va te tuer à Noël. Et ben en fait, si, décharge sodée, et puis dans la nuit, on part aux urgences. Et donc, ils se sont dit, on va donner des balances connectées aux gens. C'est anodin, une balance, enfin, ça choque personne. Et on va demander aux gens de se peser tous les jours. Ce qu'il faut surtout pas faire si vous le faites dans le cadre d'un suivi de poids. L'idée, c'est que si vous prenez 1 kilo en une nuit, c'est probablement que vos poumons sont en train de se remplir de liquide plasmatique et que vous êtes en train de décompenser au niveau cardiaque. Et donc l'idée, c'était de pouvoir alerter les gens très rapidement, faire passer une infirmière ou leur demander d'aller chez leur médecin traitant tout de suite, voire de faire une radio, et s'il fallait, sinon d'aller aux urgences, mais sur leurs deux pieds. L'idée, c'était de ressortir en 24 heures avec un traitement, plutôt qu'en 2-3 semaines, avec probablement peut-être des escarres, des choses, etc. Donc voilà, l'idée, encore une fois, dans cette e-santé, c'est que C'est des fois le Disneyland des technologies, on nous sort tout et rien, on essaie peut-être d'être un petit peu normatif et un peu manichéen, c'est-à-dire ça serait bien, ça serait pas bien, et pour 1% de taux de graisse en plus, tu serais gros ou normal. Non mais c'est le risque finalement, c'est d'entrer dans une société de la norme, même au niveau de la santé, parce qu'il faudrait dormir 6h42, il faudrait que tu te réveilles maintenant, il faudrait pas que tu fumes 7 clopes en plus, et il faudrait pas que tu manges ce demi-yaourt de plus, parce que c'est trop de calories.
C'est un peu le problème aussi du discours, du langage, et notamment même de ces applications qui sont souvent, d'un point de vue grammatical, des langages... c'est soit du performatif, soit de l'impératif, impératif direct ou indirect. Et c'est pour ça que la question même d'être toujours en lien avec des personnes de la santé, médecins, thérapeutes ou autres, c'est essentiel. Et voilà, le problème, c'est qu'on est dans une jungle un peu numérique. Faire la part des choses, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, voilà, arriver à se dire qu'il y a des démarches qui se mettent en route pour qu'on arrive à...
Et qui sont intéressantes. La question que vous pourriez vous poser, c'est seriez-vous prêt à recevoir des messages de votre téléphone si on avait prouvé que ça vous permettait peut-être de vivre 50 plus ? Est-ce que vous seriez prêt, entre guillemets, à obéir à votre téléphone pour sortir une station de métro plus tôt, pour marcher, pour votre alimentation, si vous aviez la garantie de vivre 50 plus ?
C'est pas évident, hein. C'est pas évident.
Avec des publicités au milieu.
Je sais pas si c'est contradictoire, c'est plutôt ouvrir le champ de la prévention en se disant que si j'interviens maintenant, peut-être sur votre burn-out, votre consommation de tabac, votre consommation de charcuterie ou votre surexposition au soleil, j'évite leurs complications qui coûtent cher à la société, que sont l'infarctus, le mélanome, l'arrêt de travail et la dépression, etc. Et parce que on est des sociétés latines. Je reviens d'un mois aux États-Unis, là. On travaille avec Stanford en Californie. En plus, j'ai un père qui travaillait aux États-Unis et qui est revenu exercer en France. Et aux États-Unis, globalement, je ne vais pas vous l'apprendre, vous payez pour votre santé. D'accord ? Donc vous avez quand même intérêt à garder votre capital santé. Donc eux, ils sont dans le care et le cure, la prévention et le traitement. Nous, on est des sociétés latines. C'est-à-dire que globalement, bah, on boit, on fume et tout va bien. Et puis le jour où il y a un problème, et bah, on va voir le médecin et avec... J'aime pas du tout cette expression parce qu'elle déresponsabilise tout le monde, mais l'idée un peu que la médecine est gratuite et que de toute façon, vous allez trouver un dermatologue qui va vous prendre en charge si vous avez un mélanome. Et ce qui fait de nous des sociétés très mauvaises en prévention, enfin, honnêtement, aujourd'hui, la prévention, ça se limite à des affiches dans le couloir du CHU, fumer, ça tue. Enfin, ouais, ok, mais, non, mais personne n'a arrêté de fumer, et moi le premier, avec un fumet tue, même avec 12 ans de médecine. Et,
si ce n'est qu'en plus, ceux qui fument même occasionnellement, d'avoir ces paquets comme ça, ça culpabilise sur quelque chose qui, à la base, n'est...
Bon, on finit par les retourner, en plus.
Exactement, il y a des comportements complètement en retour, etc.
Mais la chance du numérique, c'est de pouvoir, contrairement à la fiche qui est scotchée dans l'hôpital, vous passez un message personnalisé. Si vous avez 20 ans ou 50 ans, votre histoire vis-à-vis du tabac en termes d'antécédents, enfin de durée, de nombre de paquets, etc., elle n'est probablement pas la même. Il ne faut pas que je vous parle des addictions de la même façon. Et grâce au numérique, on peut le faire, ce que fera jamais une affiche. Et donc, c'est ça la promesse de la e-santé, c'est quand même globalement d'introduire de la prévention, et alors primaire, avant que vous tombiez malade, ou secondaire, c'est par exemple après votre infarctus, vous encourager à avoir les bons gestes diététiques, mais en aucun cas de vous faire un massage cardiaque s'il faut, ou de vous faire
un stress. C'est aussi peut-être une solution sur les déserts médicaux, parce, puisqu'on va vers...
Moi, je pense que les gens, ils veulent encore voir leur médecin.
Ah non, mais c'est... Alors, moi, je n'ai jamais... Moi, je pense... Je ne pense pas que ça remplace les médecins. Du tout, du tout. C'est un outil en plus qui vient s'insérer dans une chaîne. Mais j'entendais dire... Moi, je donnais une conférence il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je crois qu'il était ergothérapeute dans le bassin d'Alès. Il était tout seul. Ça veut dire que dans tous les villages aux alentours, donc il était très content. Et il me demandait un accès et on lui a donné parce que du coup, il diffuse ça à tous ses patients. Ça permet quelque chose versus rien.
L'intérêt de la e-santé, je ne sais pas combien d'heures ça représente dans un mois, le temps perdu à écrire des ordonnances ou à les taper. Non, mais vraiment, si demain on pouvait simplement les renouveler, les envoyer aux pharmaciens à travers des canaux sécurisés et gagner ces 30 secondes. Toutes les 8 minutes, fois le nombre de semaines, fois le nombre d'années, on pourrait libérer peut-être un peu de temps médical aussi.
En parlant de ça, on commence à toucher les coûts. Et est-ce qu'il y a des études économiques sur l'impact de la e-santé ?
Sont en cours.
Parce qu'on peut se demander si ça va accroître encore les coûts de la santé ou si ça va être...
Non, ça, nous, on est en train d'en mener. Donc, elles sont en cours. Et les résultats vont démontrer qu'en fait, justement, ça apporte une réduction significative dans le coût de la société.
Et les pouvoirs publics sont assez à l'affût de ça, puisque en fait, la e-santé dans la santé, c'est un peu l'un des rares domaines où il y a une augmentation des budgets, alors que la santé est plus classique, je dis, c'est soit ça stagne, soit ça descend. Alors après, le risque, c'est qu'effectivement, on compte comme pour l'ambulatoire, on compte que sur la e-santé, voilà, il y a toujours cette possibilité de dérive, ça n'empêche pas. Et c'est là que tout le monde, et aussi bien ce qu'on appelle les usagers maintenant, on disait les patients ou autres, mais les utilisateurs de la e-santé, avec bien sûr les médecins, les thérapeutes et autres, soit à l'affût de ça. Et l'idée, c'est quand même aussi que cette e-santé puisse permettre d'avoir un certain droit de regard, etc.
Alors, plus partagé que vous. Clairement, les règles d'évaluation aujourd'hui, moi je fais que ça toute la journée, les règles d'évaluation en e-santé, il y en a qui restent à définir. C'est-à-dire, on ne sait pas l'évaluer. Deuxièmement, il y a quand même globalement un surcoût initial. C'est-à-dire, vous avez vos dépenses classiques, vous faites de l'innovation et après, ça descend. Mais financer l'innovation, de toute façon, il faut en financer entre guillemets 10 et en évaluer 10 pour que ça marche. Après, en France, je pense que c'est nos politiques la principale source de dépenses. Quand on voit comment a été mené le DMP, je sais que quelqu'un va m'en vouloir dans la salle terriblement juste après. non, mais quand on voit le DMP, c'est 800 millions d'euros, enfin 800 millions, mais moi vous me donnez un millième de ça.
Faut peut-être dire ce que c'est le DMP.
J'embauche 10 000 personnes.
Faut peut-être dire ce que c'est le DMP.
Oui, le dossier médical partagé. C'est le dossier numérique dans lequel il y aurait toutes vos données et qui ferait que si vous allez en vacances demain à Quiberon et que vous avez un problème de santé, bah, l'hôpital en une seconde, il sait que vous avez eu une prothèse de hanche telle année, un pacemaker telle année, pour telle raison, etc. Et donc voilà. Après, en France, on n'est pas les plus intelligents. Il y a des gens un peu plus souples que nous. Par exemple, la Belgique vient d'annoncer qu'elle testait le remboursement de 24 applications mobiles de santé. Elles ne sont pas toutes dispositifs médicaux. C'est-à-dire, contrairement par exemple aux outils de Pierre, elles n'ont pas toutes présenté un impact sur la santé. Parce que leur postulat est le suivant. Et de dire, de toute façon, faire une évaluation, ça prend 3 à 5 ans. Et ces applications, elles changent de version tous les mois. Donc, de toute façon, le jour où on sortira les études, si ça se trouve, la start-up qui l'a fait sera morte. Donc ça ne sert à rien du tout. Et ils se sont dit, il y a aussi une chose qu'on ne sait pas évaluer, c'est le gain de temps administratif, c'est le sentiment de réassurance, c'est la communication facilitée. Et c'était un ministre de la Santé belge qui disait combien de gens n'ont peut-être pas pris rendez-vous parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils n'en avaient pas assez vite. Et grâce à des applications qui vous permettent de trouver un médecin disponible dans les 2 semaines, vous allez peut-être l'avoir. Et donc c'est ça qu'ils veulent évaluer. Mais il y a beaucoup de travail à faire encore.
Je reviens sur l'économie. Quand on fait des séances de rééducation à la maison... en ce qui concerne nos applications, il y a un coût qui est insignifiant. C'est de l'espace serveur, donc c'est rien du tout. Ça peut empêcher un déplacement sanitaire. Sur une prescription qui va être de 50 séances, il y en a 30 qui sont faites à la maison et 20 en institution. Il y a une baisse des coûts qui est phénoménale, en fait. Mm-hmm. Phénoménale. Donc nous, on compte beaucoup produire des résultats très forts aussi, à la fois clinique, mais aussi médico-économique.
Et puis là, je vous passe la parole. On a un confrère du Mans qui s'appelle Denis, c'est son nom. Il était oncologue et il a commencé à voir que finalement les gens, toussaient un petit peu avant une rechute qui était détectée à l'IRM. Donc il a commencé à faire une application. Il a fait une étude clinique, donc il a pris des patients avec et sans application. Et aujourd'hui, il dispose d'une application qui, 3 semaines avant la détection de vos nouvelles métastases à l'IRM, est capable de vous dire que vous êtes en rechute tumorale. D'accord ? Et donc, il y a Diabéo aussi de Sanofi qui vous dit en quasiment temps réel quelle dose d'insuline vous injectez quand vous êtes diabétique. Enfin, ces outils pertinents commencent à arriver, mais c'est l'entonnoir, c'est-à-dire c'est les 259 000 euros. Et puis progressivement, ça tombe dans la partie.
C'était juste pour parler des inégalités sociales de santé, parce que la question aussi, c'est à qui ça s'adresse. Parce que sur le terrain, moi je suis diététicienne, mais par exemple sur le diabète gestationnel, on a des très belles applications, mais les précaires n'ont pas le smartphone ou même l'abonnement à Internet. Et donc ça reste encore assez privilégié.
Je pense que ça sera disponible bientôt dans des réseaux de pharmacie ou autre. Il y a aussi toute une organisation à mettre en place. Oui. Alors, ça ne va pas tout résoudre, hein, de toute façon. Hein. Mais il y a quand même une organisation. Alors, bon, moi, je le vis au quotidien, ça, hein, parce qu'à la fois, on est aidé dans les financements de notre recherche et autres, y compris par le ministère de la Santé ou autre. Et puis après, il y a toujours du mal à bouger au niveau réglementaire. La CNIL, c'est un enfer.
Oh là là.
La NSM, c'est très compliqué. La NSM, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments. C'est très compliqué. Bon, même si on collabore bien, nous, avec eux, parce que comme on a un haut niveau de validation scientifique, ça les rassure. Et alors, nous, on est entre le fait d'aller vite, parce que si nous, on ne va pas vite, d'autres vont arriver avec peut-être moins de qualité, mais ils vont prendre une autre place. Bon, ça va se jouer sur la qualité des jeux, la qualité scientifique, sur le modèle économique aussi. Nous, on raisonne en numérique. Numérique, quand on veut gagner un million d'euros, on peut demander un euro à un million de personnes. C'est facile. Donc, c'est là.
Mais après, c'est pour revenir à la question, justement, si c'est un million de personnes, ils n'ont pas Internet, ça devient problématique. Il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti le 13 janvier. Qui préconise de prendre en charge une partie du remboursement de ces objets connectés et donc probablement de la tablette qui va en face. L'idée, encore une fois, c'est de se dire si à terme ces outils deviennent très aboutis, mais qu'on parle de balance qui coûte 189 euros, alors est-ce qu'on ne crée pas une inégalité dans le sens où bah, justement tu as de l'argent, tu as le bon produit et tu vas gagner des années de vie.
Même là, en ce moment, pour les diabétiques, les bandelettes, elles sont remboursées avec un quota limité.
Après, on tombe dans le financement de la santé au sens large.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, dans le développement, penser à des mécènes qui permettent de tester les objets connectés sur les gens qui n'ont pas accès, qui, par définition, sont tellement dans des difficultés qu'ils ne pensent pas à leur santé.
Oui, il y a un double ou triple schisme, je pense. Le premier, en effet, c'est l'argent. Le deuxième, c'est la génération. Je pense que je suis plus technophile que mes grands-parents, très clairement. Et puis le deuxième schisme, c'est, on va dire, campagne-ville. Mais les CHU non plus. Hein. Je vous rassure, j'ai même pas de 3G dans le CHU. Les murs en béton sont comme ça. Et...
Je pense que bon, ça va. C'est des choses qui vont évoluer. C'est très nouveau pour la santé, parce que même s'ils sont habitués, ils ont vu arriver quand même les technologies. Dans l'imagerie médicale, c'est phénoménal comme ça a pu avancer. Donc après, vous savez, si ça rend service, si c'est accessible, si c'est correct, ça va se répandre. Si c'est pas cher, ça va se répandre. Voilà, c'est des choses qui doivent évoluer. Il faut que, de toute façon, il faut que le marché de la santé soit j'allais dire torpillé, mais il faut le casser, parce que pour l'instant c'est vraiment moi je le vois, hein, dans une espèce de chape de plomb, on essaye de passer. Bon, nous on a un modèle économique qui est très particulier. Quand on va sortir Curapi, on va l'appliquer de suite. Je suis sûr qu'on va se faire rentrer dedans. C'est pas grave, on n'est pas une petite start-up, donc on va pouvoir tenir, mais on va se faire rentrer dedans de manière très très forte. Parce qu'on va briser les codes, mais comme Airbnb a brisé les codes aussi. Vous savez, Airbnb sont rentables que depuis ce semestre. Ils ont une valorisation énorme, donc moi je raisonne de manière très 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 numérique, et on va arriver comme ça. Bon, je sais pas, hein, ce que ça va donner. Et où on sera dans 50 ans. Mais peut-être que... Oui, je pense quand même. Je pense. On fera encore des tables rondes.
Je voulais vous demander, à propos de briser les codes, est-ce qu'on peut dire que Curapi, enfin Genius, démédicalise la santé? Moi, c'est l'impression que j'ai, quand je dis de sa passion, c'est soigné par le jeu, soit...
Sur la question de soigner par au jeu, je pense qu'on médicalise.
On numérise plutôt. On est dans le processus de soins, vraiment, je vous assure.
Peut-être que ça.
De soins, mais moi je ne vois pas la différence de soins, mais moins par le côté médical qu'on médicament. Alors,
médicament plutôt. Oui. Mais vous savez, moi je suis toujours très très surpris quand depuis maintenant quelques années, on a des messages simples réguliers qui nous disent qu'il faut bien manger, bien dormir et avoir de l'activité physique. Avant, on nous disait non, il faut prendre. Je découvre le marché de la santé depuis 2 ans. Tout est organisé autour de la molécule. Donc, on est en train de peut-être démoléculariser le marché, parce que tout tourne autour de la molécule quand même. C'est
plutôt du médecin.
Au sens, c'est verrouillé autour du médicament. Et maintenant, je suis très surpris quand même. Moi je suis entouré de médecins, donc je leur dis mais attendez, vous êtes en train de redécouvrir qu'il faut bien dormir, bien manger et avoir de l'activité physique depuis 2 ans.
Disons, il y a le marché pharmaco qui est très important, très influent. En France, ça c'est indéniable.
Je parle de ce marché.
Il y a aussi pas mal d'aspects médicaux autres qui ont été développés depuis pas mal de temps. Finalement, même le paramédical, par exemple, c'est une autre manière de traiter, hein, oui. Aussi.
Voilà. Qui commence à bien s'organiser aussi. Je dis pas du mal des médecins. Moi, je suis plutôt critique sur l'industrie du médicament plutôt. Et tous ces abus. Quoi.
Il commence à se faire peut-être tard. Hein. On va arrêter là, hein, parce que. merci.